Que le Seigneur soit béni. Voulons-nous voir la gloire de Dieu? Eh bien, si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut le suivre. Et on ne peut pas le suivre sans porter la croix. C'est ce que nous allons voir ce soir. Nous allons d'abord faire une lecture dans Matthieu chapitre 28. Voilà, je vais vous laisser des textes que je vous encourage à relever afin de les méditer pour vos cultes personnels. Nous allons ce soir les effleurer, mais c'est bien que vous les méditiez d'une manière personnelle pour que vous puissiez personnellement vous amener à cette profondeur de regarder ce que signifie porter la croix. Dans Matthieu, avant de remonter au ciel, Jésus leur a dit ceci au verset 19. Il donne pour terminer une promesse, mais avant de faire la promesse, il donne un commandement. Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur n'a pas dit faites des religieux, des religions, mais des disciples. Vous voyez, c'est un commandement, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car un disciple commence véritablement lorsqu'il prend le baptême et qu'il accepte Jésus comme sauveur. C'est comme un mariage. Ça démarre vraiment le jour de cette union devant le maire. On prend un engagement. Eh bien, la vie de disciple commence par cet acte d'obéissance, dont du baptême. Après, il y a cette promesse qu'on peut lire quand même. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Luc chapitre 9, verset 23. C'est un des quatre textes où Jésus parle de l'importance de porter sa croix. Matthieu chapitre 9, verset 23. Luc chapitre 9, verset 23. Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous. Ça, c'est des versets, c'est des mots que l'on lit habituellement comme ça, mais je vous assure, ça, c'est un peu Sandor. Il dit à tous. Vous avez compris le message. Il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Donc voyez, quand on prend quelques textes comme ces deux que nous venons de lire, nous pouvons penser à ce texte aussi où Paul dit aux Éphésiens que Dieu a donné des pasteurs pour le perfectionnement des saints. Ce soir, notre désir, c'était de prier. On l'a fait pendant une heure, on a prié, on a demandé à Dieu sa grâce. Ça ne nous empêche pas de terminer tout à l'heure ou de prier pour quelqu'un qui en aurait vraiment besoin. On a chanté des cantiques, on a loué le Seigneur. Mais il est certain que tout cela doit contribuer au perfectionnement des saints. Je lisais aussi ce verset tout à l'heure, quand il est écrit que Dieu a placé des hommes, des pasteurs, en vue de présenter devant Dieu des hommes comme étant des hommes faits. Le but de ces réunions, c'est que nous devenions des disciples accomplis. Faites des disciples. Est-ce que aujourd'hui tous les chrétiens sont des disciples? C'est une vraie question. Si vous avez lu le livre des Actes, on peut le lire parce que c'est quand même à lire. Dans le livre des Actes, au chapitre 11 et au verset 26, il nous est dit que la première fois qu'on a appelé des disciples chrétiens. Je ne sais pas si vous aviez fait attention à ce verset. Actes chapitre 11, verset 26. C'était Antioche. Vous voyez? C'était une moquerie en plus. Ça veut dire petit Christ. C'était vraiment se moquer des chrétiens. Acte 11, verset 26, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Et ils enseignèrent à beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, avant, les croyants, on les appelait des disciples. À partir d'Antioche, les disciples, on a commencé à se moquer d'eux en les appelant des petits Christ, donc des chrétiens. Mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui est l'inverse. Est-ce que tous les chrétiens sont véritablement des disciples? C'est vraiment la question qu'il faut absolument que l'on se pose dans l'Église. Beaucoup de gens sont des croyants, se disent chrétiens, mais je peux vous dire qu'ils ne connaissent rien de la vie de disciples. Et ça, c'est quand même quelque chose que nous devons absolument aborder. Si nous voulons continuer à chanter des cantiques aussi beaux que Seigneur, nous voulons voir ta gloire, il est certain que ça passe par cette affaire-là. Il dit à tous. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'est-ce qu'il doit faire? Aujourd'hui, je vous en ai parlé une fois parce que ça m'avait fait sourire, mais ça m'avait fait pitié. J'avais été sur un site chrétien et voilà, vous voulez devenir chrétien? cliquez, cliquez, vous cliquez, voilà, je veux devenir, voilà, vous cliquez sur la case, je veux devenir chrétien. Vous avez cliqué sur la case, vous voulez devenir chrétien, oui, vous êtes devenu chrétien. Sérieusement. Alors les gens s'imaginent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont cliqué, clic, je suis devenu chrétien. Est-ce que vous vous rendez compte, mais l'ânerie que ça représente? Et après, on vous dit, au bout de 3 ans, voilà, il y a 1 million de Français qui ont cliqué. Donc, en France, il y a 1 million de plus de personnes qui sont chrétiens. Moi, je vous avoue que j'ai du mal, surtout que ce million de chrétiens ne fréquentent même pas les églises parce qu'on leur a fait comprendre que ce n'est pas grave. On peut être très bien chrétien sans fréquenter l'église. Ça part un peu comme ça. Donc, ça vous donne une idée qu'on est loin de ce que Jésus a demandé avant de remonter au ciel. Faites des disciples. On vient de lire... Il dit à tous, il ne dit pas à une catégorie de gens, à un comité, ou des gens qui étaient meilleurs que d'autres, tiens, il n'a pas dit aux 12, on a dit, il dit aux 12, ah, ça c'est pour les apôtres, pour les pasteurs, et je crois que quand quelqu'un veut devenir chrétien, quand quelqu'un veut devenir un disciple, il doit comprendre que ce que Dieu demande, il le demande à tous, à toute la foule, il dit à tous. Est-ce que vous vous sentez concerné, vous qui voulez devenir, vous qui êtes chrétien? Alors qu'est-ce qu'il demande? Il demande 3 choses, on n'aura peut-être pas le temps de les voir toutes ce soir, mais on va les effleurer quand même. Qu'est-ce qu'il demande? On y revient? Décidément, j'ai les 4 textes en tête, Luc 9. Luc chapitre 9, on y revient. Qu'est-ce que c'est être un disciple? Il y a au moins 3 choses qu'il faut que nous demandions à Dieu. Parce que je vous assure, je le répète, beaucoup de gens se disent chrétiens et ne sont pas devenus des disciples. Ils sont des croyants. Ils disent, ah, c'est bien l'Église, j'aime la parole. Mais ils ne sont pas devenus disciples. Ils ne font pas ce que l'on va voir ce soir et peut-être mardi prochain. Si quelqu'un veut venir après moi, donc, premièrement, qu'il renonce à lui-même, ça aussi, ça nécessite une soirée, croyez-moi. Qu'il se charge de sa croix. Et troisièmement, et qu'il me suive. Donc, pour beaucoup de gens, même pour beaucoup de chrétiens, la croix, oh la croix, si vous saviez, depuis 6 mois, oh j'ai des rhumatismes, si vous saviez la croix que je me traîne. On l'entend ça, on l'entend parmi nous. Oh moi ma croix c'est mes problèmes financiers. Ah oh, si vous saviez, j'ai toujours des problèmes d'argent, moi c'est la croix que je me porte. C'est pas ça la croix. Mais voyez, on entend ça dans la bouche de certains chrétiens. La croix, oh ma croix, moi c'est mon mari, oh il a un mauvais caractère. Oh si vous saviez ce que j'endure comme croix avec le caractère de mon mari. Etc. La croix, pour beaucoup de gens, c'est les difficultés de la vie. Ce n'est pas ça du tout. La croix, c'est lorsque l'on devient un disciple, il y a des conséquences. Quand on devient un disciple, que vous le vouliez ou non, cela a des conséquences dans notre vie de famille, au travail. Est-ce que les gens savent, par exemple, au travail, que vous êtes un chrétien? Moi, il y a des gens qui me disent, écoutez, moi, je ne veux pas d'histoire au boulot. Moi, je n'ai jamais dit que j'étais un chrétien. Je fais comme les gens de mon boulot. Ils ne le savent pas, je n'ai pas d'histoire. Eh bien, je peux vous dire que ça reflète vraiment cette mentalité dont je viens de vous parler. Car je crois que quand on est chrétien, même si on doit avoir de la sagesse pour témoigner, je pense que c'est une grâce de savoir que les gens avec qui nous sommes savent qu'on est des chrétiens. Oui ou non? Est-ce que les gens qui travaillent avec vous savent que vous êtes chrétien? Eh bien, je l'espère. Si ce n'est pas le cas, priez. Si vous êtes piégé par la honte, piégé par la timidité, faites-en une affaire sérieuse. Et je peux vous dire que Dieu va vous donner des occasions de témoigner, croyez-moi. Donc, le Seigneur, dans ce texte, c'est facile à comprendre, il fait une relation entre le fait d'être un disciple. Qu'est-ce que c'est un disciple? C'est quelqu'un qui apprend à renoncer à lui-même, qui apprend à se charger de la croix, de sa croix, la sienne à lui, celle qu'il doit porter, et de le suivre. Donc ce texte, alors je ne sais pas si on aura le temps, ce texte se trouve dans 4 endroits différents, dans 4 contextes différents, ce qui prouve que Jésus en a parlé au moins 4 fois, puisque les contextes sont différents. Je vous les livre, Matthieu chapitre 10, verset 38, si on a le temps on y reviendra, Matthieu chapitre 16, verset 24, bon Luc 9, 23, on l'a lu, et Luc 14, 27, peut-être on terminera si on a le temps avec Luc 14, 27 pour voir un aspect. Donc, quand Jésus est venu nous sauver, vous savez que le salut, tout s'articule à la croix. Tout se passe à la croix. C'est la prédication de la croix qui nous sauve. C'est pas, ah, moi j'étais catholique, je suis devenu évangélique, ah c'est mieux. Bon, il n'y a pas d'idole, on ne prie pas les morts, on ne prie pas la Sainte Vierge, tout ça. Moi ça me va. C'est ce que je voulais quelque chose de sombre.
Mais c'est peut-être très bien, mais ce n'est pas ça l'évangile. Bien sûr, c'est ça. Mais on est sauvé, non pas parce qu'on a changé d'église, on est sauvé parce qu'on a vraiment accepté le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Jésus est venu nous sauver au calvaire. Et si vous n'avez pas été touché par la prédication de la croix et que vous ayez pris le baptême, c'est quelque chose de tout à fait sentimental, de quelque chose de religieux. Le Seigneur est clair. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge, qu'il prenne la croix, qu'il se charge de la croix. Parce que ça aussi, c'est une affaire. Se charger de la croix, la garder. Il y en a qui s'en déchargent de la croix. C'est pas vrai ? Hein ? Se charger chaque jour de la croix, c'est-à-dire que tous les jours, il faut être prêt à obéir à Dieu. Il peut y avoir des occasions qui font que, eh bien, on doit se dispenser de certaines choses. Tiens, eh bien, moi, j'avais ce soir envie d'aller, je ne sais pas, imaginez. Ah, moi, j'aurais aimé aller faire une heure de tennis ou j'aurais aimé aller au cinéma. Non, ma place, c'est de renoncer à cette activité et d'aller à la maison de prière. Oui ou non ? Moi, je le crois. On pourrait aborder beaucoup d'aspects. On y reviendra peut-être une prochaine fois parce que ça, c'est beaucoup. Mais jamais il nous est demandé de déposer la croix. Et pourtant, combien l'ont fait ? Combien l'ont fait ? Ils ont commencé avec Jésus-Christ, ils l'ont déposé. On va lire un texte pour voir quand même que c'est quand même de quelque chose de douloureux. Déjà, dans l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul en parle. De ceux qui marchent en ennemi de la croix. Déjà, vous voyez, des gens qui avaient commencé à marcher avec Dieu, et puis qui... Voilà, ça fait mal au cœur, parce que la façon dont c'est écrit, Philippiens chapitre 3, verset 18, il faut en parler de ceux qui... Si Jésus nous demande de porter la croix, ce n'est pas pour l'abandonner quand on en a envie. C'est chaque jour. C'est chaque jour qu'on est chrétien. Ou est-ce qu'on est chrétien le dimanche ? Moi, je l'entends des fois. À moi, l'église, c'est le dimanche. Après, j'ai mon boulot, j'ai mes affaires. De l'air de dire, Dieu de son côté, moi du mien, c'est déjà bien. Ça, c'est pas les disciples, ça. Ça, c'est la religion. Regardez comment Paul parle de ces gens qui ont abandonné la croix. Il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore. Comment il en parle ? En pleurant. Vous voyez ? Leur fin sera leur perdition, vous voyez. Ils ont abandonné Dieu, il est dit qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et on voit qu'il y a des gens qui ont pris la croix et qui, tout d'un coup, n'ont plus voulu l'accepter parce qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour être chrétien, oui ou non ? Quand on est chrétien, il y a un prix à payer. Si vous ne comprenez pas cela, c'est que vous n'avez jamais réfléchi à la notion de la croix. Dans Galates, je vous le cite, il dit « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. » Ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Parce que dans la notion de la croix, que nous le voulions ou non, même si nous allons voir, on peut voir l'aspect négatif, mais on peut voir surtout, et j'espère qu'on va terminer avec l'aspect positif, il va de soi que la croix nous parle de souffrance, d'opposition. Oui, quand même. Vous êtes d'accord avec moi ? Quand on parle de la croix, même si on parle surtout à la croix du Seigneur Jésus, on sait que nous aussi, nous devons porter la nôtre et qu'il peut y avoir une notion de souffrance, de persécution, d'opposition, etc. Bien sûr qu'il y aura un jour où nous la déposerons. Est-ce qu'au ciel, on aura besoin de porter la croix ? Mais je ne pense pas, vous voyez. Je pense qu'au ciel, ça sera vraiment béni. Est-ce que vous y pensez des fois ? Voilà. Mais en attendant ce jour où nous serons bénis, rémunérés de tout ce que l'on aura fait pour le Seigneur, enfin, quand on parle des récompenses, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais en attendant, il faut porter la croix jusqu'à la fin. Il y a des gens, des fois, ils prennent le baptême. Un mois après, on ne les voit plus. C'est écrit quand Jésus dit, ils croient pour un temps, et dès que survient une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Je connais un frère qui a pris le baptême, il avait fait une expérience avec Dieu, c'était miraculeux. Miraculeux, son fils est en train de mourir, il a crié à Dieu, Dieu l'a guéri instantanément. Le docteur qui savait qu'il était malade a témoigné du miracle. Et le gars, il a pris le baptême, il a donné un témoignage, c'était extraordinaire, j'y étais. À ce baptême. Il a donné un témoignage extraordinaire. Un mois après, il ne venait plus à l'église. Et il m'a dit, écoute-moi au travail, on se moque de moi parce que je suis chrétien. Il a dit à une collègue qui lui a posé la question, où t'étais hier ? Et j'étais à l'église. Et elle s'est moquée de lui, il n'est plus jamais revenu à l'église. Vous voyez, c'est pas nouveau. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Et on pourrait, hélas, multiplier des milliers d'exemples d'hommes et de femmes qui n'ont pas compris ce que c'était un disciple. Voilà, il y a de l'opposition. Dans le ciel, vous inquiétez pas, il n'y aura plus de besoin de travailler dans ce sens-là. Avant de mourir, Paul il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Est-ce que vous voulez que ce soit votre expérience? Est-ce que vous voulez dire, le dernier jour de votre vie, j'ai gardé la foi? Parce qu'aller dans une église, c'est une chose. Garder la foi, ça n'est une autre. À assister à des réunions le dimanche matin à un culte, c'est très bien. Mais garder la foi et dire j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, quelle bénédiction, quel jour de gloire lorsque l'on terminera sa course en ayant ce même état d'esprit. En tous les cas, pourquoi je vous dis ça? Pour vous expliquer qu'on ne peut pas parler de la croix pour quelques expériences de quelques semaines. Voilà, j'ai besoin de Dieu en ce moment. Il y en a qui le font, même ici. Il y a des gens qui viennent, oh, monsieur Gouin, en ce moment j'ai des problèmes avec mon mari, ça ne va pas, prier, il faut que je sente qu'il me faut venir à l'église. Je dis, mais il ne faut pas venir à l'église parce que vous avez des problèmes avec votre mari. Je sais. Alors quand vous voulez parler de l'éternité, c'est, tout ça, ça semble un peu virtuel pour ces gens. Mais il y a des gens qui ne viennent que quand ils ont des problèmes. Écoutez, je suis hélas peut-être le mieux placé pour pouvoir vous en parler. Et ça n'a rien à voir avec la vie de disciple. Voilà, quand Jésus-Christ devient un distributeur automatique, ça ne va pas du tout. Croyez-moi, ce n'est pas la foi. Par contre, Jésus ne nous a jamais demandé de porter sa croix à lui. Qui pouvait porter sa croix? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pouvait porter la croix que le Seigneur Jésus a portée? Personne d'autre pouvait la porter à sa place. C'est lui qui a porté nos péchés sur la croix, en son corps. Vous le savez, je ne vais pas répéter tous ces textes, mais il est venu pour cela. Il n'y avait que lui, un Dieu saint qui pouvait venir par le biais justement de la Vierge Marie, qui pouvait venir sur la terre et porter le péché de tous les hommes. Par contre, si nous ne pouvons pas porter sa croix, lui ne portera pas la nôtre. Et je crois que ça, c'est très important que nous le réalisions, parce qu'il y a beaucoup de gens, bien sûr, qui sont en extase, c'est bien, devant l'œuvre de Jésus-Christ, qu'il a accompli lui-même sur le bois de la croix, mais il ferait mieux de commencer à réfléchir sur ce que Jésus leur demande. Car, je le répète, si nous ne pouvons pas porter, nous ne devons pas porter la sienne, car de toute façon, nous n'aurions pas pu, de la même manière, lui ne portera pas la nôtre. Et ce que vous avez à faire, lui ne fera pas à votre place. Ce que vous avez à faire, moi, je ne dois pas le faire. Dans les églises, on trouve parfois cette fatigue, cette difficulté, c'est que plusieurs sont obligés de faire le travail pour d'autres parce que certains ne le font pas. Moi, j'ai connu des frères épuisés dans les églises parce qu'ils faisaient tout. Quand je dis tout, ils faisaient tout. Ils étaient continuellement épuisés. Et bien pourquoi? Mais parce que je crois que c'est à l'un d'aller chercher le grand-mère, je crois que c'est à l'autre d'aller visiter une autre grand-mère, que c'est à l'autre de faire chanter, que vous voyez, ainsi de suite. Alors, ça c'est un autre problème, mais ça nous prouve que les gens n'ont pas réfléchi qu'est-ce que ça veut dire si je suis un disciple, le jour où j'ai pris mon baptême, qu'est-ce que j'ai compris de renoncer? Est-ce que je sais renoncer? Il y a des gens, mais vous leur demandez un truc, c'est même pas la peine. Ah non. Hein. Mais des bricoles. Vous demandez à quelqu'un, vous pouvez pas prendre votre enfant sur les genoux parce qu'il y a une personne nouvelle qui vient d'arriver, il n'y a plus de place. Ah non, hein, moi je ne porte pas mon gosse sur les genoux pendant le culte. Hein. Qui se débrouille? Moi je ne sais pas, moi s'il me faut aller m'asseoir, je le dis franchement, c'est pas, je l'ai déjà fait. Mais s'il faut s'asseoir sur le bord, même les personnes âgées, je pense que certaines le feraient pour laisser leur place à quelqu'un. Vous ne le feriez pas, que ce soit un notable, que ce soit un clochard. Est-ce que vous le feriez? Mais on en est là, mes frères et sœurs. On en est là dans l'Église, et même ici parfois. On a des gens qui n'ont rien compris, c'est peut-être ma faute. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut réenseigner ce que c'est être un disciple. Alors Jésus a dit ceci, Matthieu 10, 38, ne le cherchez pas. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est écrit ou c'est pas écrit? Oui, c'est écrit. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc, celui qui ne prend pas la croix ne peut pas être un disciple. Alors, je l'ai dit, on peut suivre Jésus, on peut suivre une église, l'ambiance d'une église, la doctrine d'une église, sans forcément vouloir faire la volonté de Dieu. En tous les cas, Jésus n'est pas digne de moi. Alors, c'est vrai que souvent, Dieu, personne n'est digne. Alors, Jésus dit n'est pas digne de moi. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on n'est pas digne? C'est un gros truc, ça. Hein? C'est, voilà. Je ne suis pas digne, Mais celui qui ne me prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc je crois que nous pouvons, par notre témoignage, par notre conduite, par notre façon de nous comporter, nous montrer dignes de lui. Par rapport à son amour, parlons de son amour, parce que c'est un sujet très classique que l'on peut parler facilement. L'amour de Dieu, qui est digne de l'amour de Dieu? Personne. L'amour de Dieu est grand, vaste, infini, illimité, tout ce que vous voudrez. Il est inconditionnel. Dieu nous aime de cet amour. Bon, mais quand même, quand on est chrétien, est-ce qu'on ne va pas essayer de se montrer digne de l'amour du Seigneur? Est-ce que vous n'allez pas faire des efforts pour vous dire, quand même, il m'aime de l'amour parfait, je dois, moi, à mon tour, essayer de faire des efforts pour me rendre digne de cet amour, qu'on le veuille ou non, mes frères et sœurs? C'est pour ça que Jésus dit, n'est pas digne de moi. Alors, un autre point qu'il faut parler, on va le lire dans Colossiens au chapitre 1. C'est un verset qui a fait couler beaucoup d'encre, que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, mais peut-être qu'il faut expliquer. Colossiens chapitre 1, verset 24, Paul parle d'un drôle de sujet. Moi, la première fois que je l'ai lu, je vous avoue que je ne l'ai pas bien compris, premièrement. J'ai demandé une explication à un pasteur, parce que je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Jésus a-t-il tout accompli, oui ou non? Regardez, Colossiens chapitre 1, verset 24. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, car, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. » Je ne sais pas ce que vous avez pensé la première fois que vous avez lu ce verset, mais je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a tout accompli, et voilà que l'apôtre Paul, il complète ce qui manquerait. Moi, je crois que l'œuvre de Dieu, elle est complète, que quand Jésus a dit, tout est accompli, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher, tout est parfait. Mais ça indique que si nous voulons vraiment participer à la volonté de Dieu, il y a un prix à payer. Ça nous coûtera. Quand on veut faire la volonté de Dieu, ça nous coûte. On doit absolument renoncer à certaines choses. Il y a un prix à payer. On ne dit pas, moi, la vie chrétienne, c'est... Vous savez le menu à la carte? Vous choisissez. Vous choisissez ce que vous voulez. Et pour beaucoup de chrétiens, la vie de l'Église, c'est devenu un petit peu ça. Moi, je fais ce qui me plaît. Moi, ça me va très bien. Mais on n'est pas là pour faire ce qui nous plaît. Tant mieux si on fait des choses qui nous plaisent. On est là pour faire ce que Dieu nous demande. Est-ce que vous êtes sûr que vous faites ce que Dieu vous demande? Tout à l'heure, je discutais avec une sœur qui me disait, moi, j'ai besoin d'arrêter mon activité et me tenir devant Dieu pour savoir exactement ce que Dieu veut que je fasse. Est-ce que c'est une bonne attitude? Mais c'est excellent. C'est une très bonne attitude quand quelqu'un dit, moi, je veux prendre du temps et je veux me tenir devant Dieu, tout en faisant certaines choses, bien sûr. Mais mes frères et sœurs, ce texte où Paul dit, mais ce qui manque aux souffrances de Christ, il explique que si on veut faire la volonté de Dieu, ça va nous coûter. Il y a des choses qui vont nous coûter. Mais je parlais de la réunion de prière, et bien peut-être que des fois, c'est vrai, peut-être que ça serait bien d'aller à la pizzeria à la place. Non? Une pour une pizzeria avec un bon vin rouge italien, est-ce que c'est bien? Non? C'est pas bien? Bon, moi, je trouve que c'est bien. Mais franchement, est-ce que ça ne vaut pas la peine de renoncer des fois à certaines choses pour aller servir le Seigneur de tout son cœur? Je prends quelque chose de très simple. Mais mes frères et sœurs, quand on voit les gens aujourd'hui qui sont capables de vous pouvez leur demander, ah non, moi je ne fais rien. Écoutez, moi si vous êtes comme ça, vous n'êtes pas un disciple. Vous êtes peut-être un chrétien qui connaissait la doctrine, c'est très bien. Mais vous n'êtes pas un disciple. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Oui, il y a un prix à payer. Et j'ai pris ce point où Paul parle des souffrances qu'il complète. Vous comprenez bien qu'il ne complète pas l'œuvre du calvaire, elle est totale et parfaite. Mais il poursuit le travail que Dieu lui demande et ça coûte. Et ça demande certaines souffrances. Vous savez, quand Dieu nous demande certaines choses, peut-être que vous ne l'avez pas encore vérifié. Mais peut-être qu'un jour, Dieu va vous dire, mais voilà, tu arrêtes ça pour faire ça. Est-ce que ça peut arriver? Moi, j'ai connu un jour une infirmière qui était tombée malade et elle pensait que Dieu allait lui demander, Dieu allait donner une autre clinique plus intéressante et tout. Et paf, Dieu l'a appelée à mission en Afrique avec un salaire de misère. Elle a renoncé. Est-ce que vous croyez qu'elle le regrette aujourd'hui? Bien sûr que non. On en parlera de ça. Mais il faut quand même renoncer parfois. Est-ce que ça peut arriver? Ah oui, peut-être que Dieu vous appellera à être missionnaire, peut-être que Dieu vous appellera, je ne sais pas, à faire quelque chose, peut-être que Dieu vous appellera à partir d'ici. Combien de gens ont été conduits ailleurs? Je discute avec un jeune homme qui est parti d'ici, qui voulait être pasteur ici, et qui vraiment était heureux ici, s'est converti ici. Je discute avec lui encore dimanche au téléphone avec lui, et voilà, il est parti dans une église en pleine division, et c'est ce que Dieu lui a demandé, il est là-bas, il prêche, etc. Mais il m'a dit, ça a été terrible de partir, mais Dieu m'a conduit ailleurs. Est-ce que vous croyez que c'était bien? Oui. Est-ce que vous croyez que quand il va mourir, est-ce qu'il va regretter cette affaire? Moi, je peux vous dire que non. Une vie livrée, une vie consacrée. Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Jésus, il nous a dit qu'il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors, la croix, ça n'a pas été, moi j'aime bien le dire, mais la croix pour Jésus, ça n'a pas été que la journée et la nuit où il a été arrêté, où il a été crucifié. Je crois que Jésus a porté sa croix toute la vie. Vous le croyez qu'il a porté sa croix toute la vie? Moi je le crois vraiment, qu'il est venu dans cet esprit, il y a longtemps qu'il avait livré ses mains, il n'a pas livré ses mains le dernier jour, il faut que je livre mes mains qui ont tant béni, mes mains qui ont multiplié le pain, mes mains qui ont fait tel miracle, il faut que je les mette sur un morceau de bois. Moi je peux vous dire qu'avant de venir sur la terre, Jésus avait déjà livré ses mains. Avant de venir, Jésus avait déjà livré ses pieds. Il y a longtemps qu'il avait offert sa tête pour qu'elle soit prise pour, avec une couronne d'épines. Quand il a dit dans le ciel, c'est dans Hébreux 10, on peut le lire, je l'ai marqué. C'est pour vous expliquer que la croix, c'est pas juste, s'il me faut souffrir un jour, ben je vais le faire. Si un jour Dieu me demande, qui c'est qui disait ça? C'est M. Galifot qui disait ça au dimanche. Voilà, moi je suis prêt à donner ma vie, je suis prêt à mourir pour la personne. Mais Dieu ne demande pas de ça, Dieu nous demande justement de vivre. Quand il est dit qu'il n'y a pas de plus grande joie que de donner sa vie, c'est pas de mourir, c'est d'utiliser toute sa vie pour faire du bien. Hébreux 10, 5-7. Pour beaucoup de gens, la croix, c'est juste quelque chose de limité dans la vie de Jésus. Non, il est venu dans ce sens. Hébreux 10, verset 5. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Voyez, donc, si vous lisez la suite, vous voyez bien que c'est dans le ciel que Jésus a décidé à l'avance de donner toute sa vie pour aller en définitive sur le bois de la croix. Comment il est venu Jésus sur la terre? Parce que là aussi, expliquer la croix, il faut expliquer l'état d'esprit. Est-ce que Jésus est venu dans un esprit de tristesse? Est-ce que Jésus est venu dans un esprit de victime, puisqu'il est devenu la victime expiatoire? Ou est-ce qu'il a donné sa vie par amour? Parce que là aussi, si on parle de la croix d'une manière négative, on risque d'attrister le Saint-Esprit, parce que Jésus a dit qu'il donnait sa vie par amour, que personne ne la lui prenait, que c'était lui qui l'a donnée. Il l'a dit ou il l'a pas dit? Parce que pour beaucoup de gens, Jésus, il est victime d'un faux procès, il est victime de machination des Juifs ou de machination des Romains. Quand vous lisez les commentaires politiques là-dessus, c'est à frémir. Mais c'est clair, Jésus a dit qu'il donnait sa vie. Ayez les regards sur Jésus qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix et méprisé l'ignominie. Mais il l'a fait avec joie. Il n'a pas donné sa vie. Il faut donner sa vie. Il n'y a personne, il n'y a que moi. Je veux le faire. Tant pis si c'est ça. Ne sert pas le Seigneur comme ça. Il faut quelqu'un pour faire le ménage. Il manque personne. Je veux le faire. Le balai et moi, on n'est pas trop copains, mais ça fait rien. On va le faire. Bon, ne le faites pas. Je crois que quand on fait les choses, on les fait de bon cœur. Voilà, je veux le faire par amour. Que ce soit balayer l'église, que ce soit faire chanter, que ce soit m'occuper des enfants, on ne fait pas ça dans un esprit de victime, dans un esprit masochiste. Oui, je vais porter ma croix, je vais m'occuper des enfants de l'église, je vais porter la croix. Non, écoutez, non mais je le dis, mais on l'entend parfois, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Il est dit qu'il a méprisé l'ignominie. Oui, il y a des choses à mépriser. Nous aussi, il y a des choses que l'on doit ne pas aimer. Il a méprisé l'ignominie. Mais mes frères et sœurs, il y a des fois où il faut savoir regarder plus loin, et plus haut. Quand on sert Dieu, il ne faut pas regarder la difficulté là. Il y a ça à faire, oula, ça va être dur. En vue de la joie qui lui était réservée. Car quand même, ne soyons pas malhonnêtes, il y a quand même la joie de savoir que tout ce que l'on fait aura des récompenses avec le Seigneur. Oui ou non? En vue de la joie qui lui était réservée. Quelle est la motivation qui nous pousse à accepter la croix? Paul, il a accepté cet esprit. Je voulais le faire, je ne l'ai pas fait. Prendre tous les textes où Paul parle quand il a été crucifié. Il y en a des textes où il dit « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi ». Si on les met tous ensemble, je vous assure, ça vous donne une idée du témoignage de l'apôtre Paul. Mais dans quel état d'esprit Paul a-t-il porté la croix d'après vous? Est-ce que c'était un homme triste? Est-ce que c'était un homme morbide qui se promenait les épaules renfrognées? Ou est-ce que c'était un homme qui était heureux de faire la volonté de Dieu? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il regardait plus haut. Quand on fait quelque chose, il ne faut pas dire, voilà, ça va me coûter. Ah, c'est vrai que ça coûte. Moi, je vois certains animateurs, les heures qu'ils passent, les soirées qu'ils passent, peut-être ils préféreraient être avec des amis, justement, à prendre un thé ou se détendre. Quand je vois certains animateurs de l'école du dimanche qui passent 1, 2, 3 soirs par semaine à renoncer à une soirée pour préparer, est-ce que ça ne vaut pas la peine? Mais moi, je crois qu'on peut le faire avec joie. Moi, ça m'est arrivé de préparer des prédications. Je vous le dis, bon, j'en ai honte. Mais ça m'est arrivé à une certaine époque où j'étais très éprouvé. J'ai préparé des prédications. Je le faisais bien, mais je ne le faisais pas avec joie. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? C'est pas bien quand même. Mais quand même, je le faisais, je m'appliquais quand même. Mais c'est pas bon de le faire dans un mauvais état d'esprit. Je crois que c'est bien. Dire, Seigneur, tu me le demandes, je vais le faire avec joie. Paul, on va articuler. Paul, est-ce qu'il était à plaindre, d'après vous? Parce que quand vous voyez tout ce qu'il a vécu, on peut se gratter la tête et dire, voilà, tout ce qu'il a vécu, cet homme. Mais il portait la croix, oui ou non? Paul faisait la volonté de Dieu, dont il portait la croix. Était-il à plaindre ou était-il heureux? D'après vous. Mais moi, je suis sûr que l'apôtre Paul était heureux. Mais c'est important de le dire. Parce que si on ne le présente pas de cet aspect-là, beaucoup de gens ne comprendront pas qu'il y a une joie en vue de la joie qui lui était réservée. Et ne présentons pas la croix comme quelque chose de morbide. Nous devons présenter la croix comme quelque chose de vivant. Moi, je ne crois pas que les gens qui ont porté la croix ont regretté leur vie. Je pense plutôt que c'est l'inverse, que c'est les chrétiens qui n'ont pas voulu obéir à Dieu qui doivent bien regretter d'être passés à côté de la volonté du Seigneur. Et je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens à la fin de leur vie qui doivent dire, eh bien, j'ai gâché ma vie. Oui, j'étais chrétien. Oui, je vais aller au ciel parce que je suis couvert, comme on l'a chanté, par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui reste couvert par le sang de Jésus-Christ toute sa vie, moi, je pense qu'il est sauvé, à moins qu'il vive volontairement dans le péché. Mais il est passé à côté des plans divins, de la grâce excellente. C'est pour cela qu'un chrétien, Jésus le dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge, qu'il renonce à lui-même. Ça a été dit dans un contexte particulier. C'est vrai que l'apôtre Pierre avait été très inspiré. Il avait été très inspiré. À un moment donné, Jésus fait une espèce de sondage. Qui dit-on que je suis? Alors, il y en a qui ont dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie. Vous connaissez cette affaire? Alors, et puis tout d'un coup, il dit, ah, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, bien sûr, toujours le premier à parler, prend la parole, dit, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus se tourne vers lui et lui dit, mais ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Quelques minutes après, Jésus explique qu'il va mourir sur la croix, qu'il va souffrir. Et Pierre, mais il devait penser que tout ce qu'il allait dire était inspiré. Il dit, mais à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Voilà, il est là, lui bien sûr, il reprend la parole avec ce qu'il venait d'entendre, il s'est autorisé à parler. Et qu'est-ce que lui dit Jésus? Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et c'est là que Jésus dit qu'on doit renoncer. Donc, renoncer, il faut savoir renoncer à nos pensées lorsqu'elles sont complètement de travers. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer forcément à l'argent, si l'argent n'est pas un problème. Est-ce que Dieu va vous demander de renoncer à l'argent? Bien sûr, si l'argent est un problème, et ça va vous faire chuter. Combien de gens sont tombés à cause de l'amour de l'argent? L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Mais si vous êtes riche et que l'argent ne vous empêche pas de suivre Dieu, mais Dieu ne vous embarrassera jamais avec ça. Mais si c'est un problème, ça vous fera tomber. Et j'ai souvent lu dans des bouquins des hommes de Dieu comme Wajmani qui disent « Ce que vous ne voulez pas perdre, c'est ce qui vous perdra. » Et c'est une parole, moi, qui m'a toujours, toujours, toujours interpellé. Et c'est bien vrai. Et si le Seigneur nous demande de perdre quelque chose, ce n'est pas pour nous ennuyer, mais c'est pour nous rendre véritablement libres. Oui, quand nous obéissons au Seigneur, on n'est pas à plaindre. Ne plaignez pas quelqu'un qui obéit à Dieu. Ne plaignez pas quelqu'un qui porte sa croix et qui fait ce que Dieu demande. Paul dira, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme de la boue pour l'excellence, pour la connaissance de l'excellence de Jésus-Christ. Lui, ce qu'il voulait, c'est connaître davantage le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui porte la croix, qui renonce à lui-même, et voilà, comme Pierre, là, il devait comprendre ce jour-là qu'il fallait qu'il renonce à ses pensées, voyez, qui était-il pour dire à Jésus, non, tu n'iras pas à la croix, ça ne va pas, on va s'arranger pour que tu n'y ailles pas. Vous voyez, je peux vous dire que ça venait pas de Dieu. Comme quoi, il faut apprendre parfois à renoncer à nos pensées. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous dites, oula, mais j'ai pensé à ça, mais c'est complètement farfelu. Ça vous est jamais arrivé de lire la Bible et de vous rendre compte que ce que vous pensiez était en désaccord avec la Bible? Ça vous est jamais arrivé, surtout au début? Bon, eh bien, vous renoncez à ces choses. Il faut apprendre à renoncer à ce qu'il faut renoncer. S'il y a des choses, c'est pas la peine, mais c'est pas la peine, on va pas chercher des ennuis pour rien. Mais lorsque nous consacrons du temps au Seigneur, lorsque nous décidons de dire, voilà, oui, je veux renoncer, moi, quand je viens à la prière, pour moi, je vois des hommes et des femmes qui renoncent à une heure d'une occupation, et dire, voilà, on va prier, on a prié pour ci, pour là, pour l'un, pour l'autre. Tiens donc, vous qui êtes venu à 7h30 à la prière, est-ce que vous regrettez d'avoir passé une heure dans la prière avec moi, avec nous? Est-ce que vous regrettez, et surtout avec le Seigneur, est-ce que vous regrettez? Qui regrette d'avoir passé une heure à prier? Mais s'il y en a un, alors là c'est grave, ça nécessite un entretien privilégié. Mais mes frères et sœurs, personne qui renonce pour faire la volonté de Dieu ne le regrette. Il y a une joie, un plaisir, une victoire, une guérison, une délivrance. Toujours, lorsque l'on sert Dieu et qu'on renonce pour sa gloire, il y a une bénédiction. C'est pour ça que je vous disais qu'il ne faut surtout pas interpréter ce verset qui renonce à lui-même. Moi, j'ai entendu des prédications, ça vous donnait envie que d'aller au cimetière. Hein, tellement c'était triste quand on vous parlait de la croix. Moi, je parle que de parler de la croix, ça ne peut que nous amener à la vérité, à la délivrance, à la guérison. Oui, quand nous consacrons du temps pour le Seigneur, il ne peut que nous fortifier. Quand vous vous retrouvez avec Dieu, il va vous renouveler, vous fortifier, vous guérir et vous bénir. Oui, Jésus l'a dit, on ne peut pas être un disciple si on ne renonce pas à tout ce qui nous empêche de le suivre. Et mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions ces choses. Parce que dans l'Église, Dieu a un plan, nous sommes un corps, et il faut que chacun vous puisse dire, voilà, je me tiens devant toi Seigneur, à quoi tu veux que je renonce? Quoi tu veux? Moi, c'est souvent arrivé. Quelqu'un m'a dit, je me souviens de ce gars qui était venu au Seigneur, et c'était un ami, on travaillait ensemble en boîte de nuit, et quand il a arrêté la boîte de nuit, il a fait un autre travail, mais en même temps, il s'est mis à faire du bowling pour se détendre. Et il est devenu champion du monde de bowling. Et un soir, je le vois arriver à la réunion, et je prêchais, si ta main droite est une occasion de chute, coupe-la. Et c'est le texte qu'il avait lu le matin, n'oubliez pas, il était champion du monde de bowling, et il avait dit, Seigneur, il faut que tu m'expliques ce que ça veut dire. Et ce gars, il a renoncé à toutes ses compétitions et aujourd'hui, il prêche. Mais voyez, ce soir-là, bien sûr qu'il était, il me dit, j'étais tout le temps dans les avions, à droite, à gauche, mais j'étais malheureux. Et pourtant, j'ai gagné. Mais il m'a dit, le jour où j'ai renoncé à mon championnat du monde de bowling, Dieu m'a béni. Est-ce que vous croyez que Dieu sait ce qu'il fait? Et voyez, le problème, c'est que nous, on est tordus. Il faut dire les mots comme ils sont, plutôt que de faire une longue phrase. Il faut me dire un mot simple. On est tordus. On a l'impression que si on fait ce que Dieu nous demande, on va être malheureux. C'est impossible. Si on fait ce que Dieu nous demande, on va être heureux. Quand Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice », ça ne peut qu'être qu'une bénédiction. Et si Jésus est exigeant, c'est bien. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas des soldes, des pourcentages, des rabais. Dans le royaume de Dieu, c'est pas le monde. Dans le monde, vous avez vu comment on magouille pour les choses, pour avoir et pour obtenir. Non, dans le royaume de Dieu, il y a une route, un chemin étroit, plein de lumière, et c'est dans ce chemin-là qu'il faut marcher. Alors, ce soir, je voudrais que nous terminions en disant, mais on va continuer sur ce sujet, parce que ça vaut la peine de comprendre ce que ça veut dire renoncer à soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire suivre le Seigneur? Parce que ça peut arriver qu'on tombe aussi. Est-ce que ça peut arriver de tomber? Mais il y a des chrétiens qui tombent. Ils tombent parce qu'ils sont tombés dans la tentation. Est-ce que ça peut arriver qu'une dans une tentation, on chute? Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que le juste peut tomber? Mais bien sûr, ça peut arriver. C'est le style la peau de banane, paf, on glisse. Mais on se repent vraiment sincèrement. Je ne parle pas des gens qui vivent dans le péché, qui pardonnent Seigneur et qui recommencent. Ça n'a rien à voir. Je parle des vrais disciples qui peuvent chuter et qui peuvent être, et que Dieu va relever, parce qu'ils vont se repentir. Mais après, il y a les gens qui chutent parce qu'ils ne calculent pas la dépense. Je parlais tout à l'heure de ce frère, vous voyez, qui a pris le baptême parce que Dieu avait guéri son fils. Il aurait quand même pu lire que si on veut suivre le Seigneur, on se moquera de nous. C'est écrit, heureux serez-vous lorsqu'on se moquera de vous. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais terminer avec ce texte de Luc 14, qui va nous amener à réfléchir plus tard. Luc 14, 27, je vous encourage à réfléchir sur ce texte.
On n'a pas le temps de le développer ce soir. Je pensais le faire, mais ce n'est pas grave. Regardez ce que Jésus est en train de dire. Moi, c'est un texte que je prends tout le temps avec les jeunes qui veulent prendre le baptême, enfin les jeunes ou les moins jeunes, qui veulent prendre le baptême. Je le prends toujours parce que, également, il y avait une notion de succès flagrante. Vous avez vu, Luc 14, 25, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Est-ce que ce n'est pas la notion de succès, ça, que l'on veut ? De grandes foules, c'était quand même chouette. Qu'est-ce que Jésus fait ? Il se frotte les mains et dit « Oh, c'est merveilleux, tout le monde me suit ». Non. Il se retourne et leur dit « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, pardon, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Regardez l'image qu'il donne. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Donc la fin, il y a une autre parabole, mais la fin, regardez au verset 33, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Donc vous voyez qu'il y a une dépense, il y a un calcul. Je ne sais pas comment vous avez fait quand vous avez pris le baptême. Vous vous rappelez quand vous avez pris le baptême ? Est-ce que vous avez calculé un petit peu la dépense, le prix à payer ? Est-ce que vous saviez qu'on se moquerait de vous ? Est-ce que vous saviez qu'un jour, ben, voilà, pour, vous n'alliez pas magouiller pour avoir le poste, vous n'alliez pas faire ceci, alors que vous... Je ne sais pas, moi. Il y a des gens, quand ils prennent le baptême, pourquoi vous voulez prendre le baptême ? Oh, moi, je prends le baptême parce que, ben, on m'a dit de prendre le baptême. D'accord. Mais pourquoi vraiment vous voulez prendre le baptême ? Eh bien, parce que ma famille me demande de prendre le baptême. Comme ça, Dieu va me bénir. Mais moi, je ne pensais pas que c'est ça, calculer la dépense. Un disciple, il dit, oui, je vais te suivre toute ma vie. Je ne sais pas ce que tu me demanderas. Je sais pertinemment que peut-être je devrais renoncer à tel salaire pour te servir. Je ne sais pas. Il y a mille et une choses. Mais le Seigneur est formel. Ce n'est pas des grandes foules qui l'impressionnaient. Il s'est arrêté. Et là aussi, il a dit à tous les gens, si vous ne savez pas faire certaines choses, vous ne pouvez pas être mon disciple. Et quand moi, aujourd'hui, je le répète, bon, ce n'est pas bien, mais je le répète, quand j'entends quelqu'un lui dire, ah, moi non, la réunion de prière, je n'ai pas le temps, moi, vous comprenez, il y a ci, il y a là, moi, l'évangélisation, je n'ai pas le temps. Mais je pense qu'il faut apprendre à renoncer. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai jamais vu quelqu'un qui faisant la volonté de Dieu, qui portant sa croix joyeusement, et regretter quoi que ce soit. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'on se demande pourquoi il n'y a pas de réveil, on se demande mais pourquoi les églises chutent, parce qu'elles sont remplies de gens qui ne sont pas des disciples. Elles sont remplies de croyants, super sympas, mais quand vous voyez, certains, je ne vais pas en parler parce que c'est négatif, mais quand j'entends moi certains chrétiens, moi je leur dis, alors je des fois... C'est pas facile de parler, de reprendre les gens. Est-ce que c'est facile de reprendre les gens ? Non, de dire à quelqu'un, mais vous n'êtes pas un disciple. Moi, combien de fois j'ai dit, ah déjà, mais vous êtes un chrétien de nom. Vous êtes vulgaire, vous parlez comme un charretier, vous parlez mal, vous aimez, vous insultez les gens, vous n'êtes pas chrétien. Mais ces gens-là, en principe, je ne les revois jamais. Bah, peut-être que je le dis mal, mais est-ce que je ne me dois pas de leur dire ? Des gens qui se font croire qu'ils sont chrétiens parce qu'ils vont à l'église. Si quelqu'un veut être mon disciple, je crois que quand on veut être un disciple, c'est un choix. Oui, je calcule. Je calcule la dépense. Je ne sais pas, même aujourd'hui, vous ne savez pas ce que Dieu peut vous demander aujourd'hui. Même si vous avez 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans bientôt, est-ce que Dieu peut dire à un homme de 80 ans, voilà, je te demande ça. Est-ce que Dieu peut demander à quelqu'un de renoncer ? Ben oui, Dieu peut vous dire, voilà, non, le dimanche après-midi. Mais bien sûr, si vous ne vous tenez pas devant lui, vous ne le saurez jamais. Le dimanche après-midi, je te demande d'être dans ma maison pour accueillir les âmes en détresse. Est-ce que c'est pas bien ? Moi, je vois des fois là des filles de la rue, quand il y en a 5, 6, 8, quand je vois certains chrétiens qui ont vraiment du zèle pour les accueillir, je me dis, mais quelle bénédiction ! Est-ce que c'est bien d'accueillir les filles de la rue ? Mais je crois qu'un autre problème, un des vrais problèmes, c'est que les gens veulent bien suivre Jésus, mais ils n'ont pas compris que pour le suivre, il faut se tenir à ses pieds.
Comme je le disais mardi dernier, Marie a choisi la meilleure part. Et cette part qui consiste à dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, quand j'ai fait l'AVC, je peux vous dire que je savais que Dieu voulait que je ne me disperse pas, que je devienne un petit peu le secrétaire de l'Église, à droite, à gauche, courir partout, par là, téléphone et les mails et partout. Dieu m'a fait comprendre qu'il fallait que je m'adonne à mon ministère. En plus, c'est écrit, il n'y a pas besoin d'être un grand prophète. Que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère. Que celui qui s'appelait à l'exhortation s'attache à l'exhortation. C'est écrit ou c'est pas écrit? Mais des fois, on est bête, on ne comprend pas par la parole. Eh bien, une bonne petite épreuve, ça vous permet d'y réfléchir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non? Je ne sais pas vous comment vous êtes, mais moi, je vous avais raconté cette histoire un jour de ce... C'est une histoire vraie. Un jour de ce gars qui avait amené son âne au marché. Vous savez, c'est marché aux bestiaux. Il voulait vendre son âne, et il va, bien sûr, vous savez, il y a une horaire pour la vente. C'est une histoire vraie. Et il y a une horaire, mais avant l'horaire, quand la cloche sonne, il faisait l'éloge de son âne. Moi, mon âne, il fait tout ce qu'on lui demande. Vous lui dites, assieds-toi, il s'assoit. Marche, il marche. Il fait tout ce qu'on lui demande. Alors, il y a un gars qui était, ah bon, ton âne, tu verras, vas-y. Alors, assieds-toi. L'âne, il ne s'assied pas. Avance. Là, c'est pas vrai. Si, tu vas voir. Il prend le bâton, il lui tape sur la tête. Assieds-toi. Et là, non, il s'assoit. Et il lui a dit, il écoute, mais il faut d'abord attirer son attention. Et quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit, mais Seigneur, c'est exactement ce qui se passe avec nous. On écoute, mais parfois Dieu doit attirer notre attention. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et moi, je voudrais que l'on puisse joyeusement percevoir les choses de la croix et dire, Seigneur, si tu nous demandes ça, quand Dieu dit, s'il ne me préfère à son père, à sa mère, à son frère, vous comprenez bien que plus on aimera Dieu, plus on aimera notre père, notre mère, nos frères, nos sœurs. Soyons cohérents. Et Dieu ne va pas nous demander de haïr notre famille. Plus vous aimerez Dieu, plus vous aimerez votre famille, plus nous renoncerons à certaines choses. Mais Seigneur, tu me le demandes, je le fais. Mais nous serons heureux. Je voudrais que nous souvenions d'une chose ce soir, que commencer de porter la croix, ça ne peut qu'être qu'une bénédiction pour chacun d'entre nous. Ça ne peut pas être une malédiction. Vous vous rendez compte? C'est en vue de la joie, nous aussi, en vue de la joie qui nous est réservé. On va fermer les yeux quelques instants. Combien je voudrais que nous qui sommes ici ce soir, nous disions, mais Seigneur, c'est vrai, je ne veux pas être un chrétien de nom. Je ne veux pas être un chrétien d'apparence, un chrétien du mardi ou du dimanche. Je veux vraiment être un disciple. Et on va prier simplement. On reste les yeux fermés, on n'a pas besoin de se lever, de venir sur le devant. Mais qui ce soir, là, alors que nous sommes recueillis, qui ce soir peut dire... C'est clair, Seigneur, tout ce que tu me demandes, c'est sûr, ça ne peut qu'être pour mon bien. Et je ne veux pas regarder là, je veux regarder plus haut, et je veux regarder plus loin, comme toi, Seigneur, en vue de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix. Est-ce que vous regardez la joie qui vous est réservée? Ce qui vous est réservé dans le ciel, tout ce qui vous attend pour l'éternité, c'est vrai, c'est la vérité. C'est pas du chantage, c'est la vérité. Est-ce qu'on peut dire, mais Seigneur, j'ai tout à gagner, j'ai rien à perdre. Tu me demandes de renoncer, mais en vérité, je comprends que je vais tout gagner. Et c'est exactement ça, porter la croix. Jésus a tout gagné en accomplissant son œuvre. Et nous aussi, nous gagnerons la joie, la paix, car ce sont les vertus que Dieu veut que nous gagnions. Des chrétiens sont dans la crainte, dans la peur, dans la tristesse, parce qu'ils ne sont pas des disciples. Mais montrez-moi un vrai disciple qui porte la croix et qui est vraiment triste, toujours triste, et bien moi je veux bien le voir. Un vrai disciple ne peut que dire « j'ai gardé la foi ». Alors, prions quelques instants. Prions de même cœur, priez dans vos cœurs en même temps que moi je prie haute voix. Mais priez, demandez à Dieu qu'il vous aide à être ce frère, cette sœur qu'il veut que vous soyez. Seigneur Jésus, merci pour la croix et merci de nous avoir laissé ta parole. Merci d'avoir permis que ta parole soit traduite dans notre langue. Vraiment merci Seigneur d'avoir ta parole en français. Merci de pouvoir lire ces textes, de les méditer, pour que nous réapprenions qu'être un chrétien, c'est d'abord être un disciple. Tu savais qui viendrait ce soir dans ta maison.
tu sais, Seigneur, où nous en sommes, où j'en suis, et tel que nous sommes, oui, nous venons à tes pieds. Et nous te demandons ton aide, tu vois, cette rentrée scolaire, tous ces enfants, tous ces nouveaux, ces fils prodigues qui seront là. Seigneur, que cette église soit une église pleine de ta vie, de ton esprit. Oui, Jésus, nous voulons que ta volonté soit faite. Et je te prie vraiment pour tous ceux qui vont prendre le baptême, afin que véritablement, ils deviennent des disciples accomplis. Oh Seigneur, fais-nous cette grâce, nous, tes serviteurs, d'être ces instruments qui amèneront tout homme et toute femme à la perfection. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Oui, c'est notre prière ce soir. Fais de nous de véritables disciples. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus. Amen.